Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Ici Radio Vatican. Rendez-vous avec l'Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à notre écoute. La rubrique de cette émission, La vie de l'Église en Afrique, nous conduira successivement tout à l'heure au Togo, au Sénégal, au Gabon et en Afrique du Sud. Le magazine sur l'Église et le développement intégral de l'homme nous ramènera en République démocratique du Congo, plus précisément dans le diocèse de Butembo-Beni. Et nous pourrons terminer par les titres saillants de l'actualité politique et sociale en Afrique, avec le Congo-Brazzaville, le Soudan et l'Égypte, entre autres. Bienvenue encore et bonne condition d'écoute. Ici Radio Vatican, rendez-vous avec l'Afrique. La présentation de ce journal est assurée par
Marie-José Mwando-Boabualo
et Albert Mianzoukouta. Encore une fois, bienvenue à notre écoute, l'actualité au Vatican.
Le pape a nommé secrétaire du Conseil pontifical Corunum le père Giovanni Pietro d'Altozzo, du clergé diocésain de Bolzano-Bressanone en Italie, qui était précédemment sous-secrétaire de ce dicastère.
Et puis le pape a nommé aussi des membres du conseil de direction de l'Académie pontificale pour la vie. Il s'agit de Mgr Fernando Natalio Comali Garib, évêque auxiliaire de Santiago du Chili, des professeurs Mounir Abdel Messi Cheata Farag d'Égypte et Gian Luigi Gilli d'Italie, de M. John Haras des États-Unis d'Amérique et de Mme Monica López Barahona d'Espagne.
C'est par une solennelle concélébration eucharistique présidée par le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Leonardo Sandri, en l'église Santa Maria in Transpontina, non loin du Vatican, que s'est ouverte ce mardi 22 juin la 83e Assemblée de la Réunion des œuvres d'aide pour les églises orientales Roaco. Dans son homélie, le préfet de la Congrégation pour les églises orientales a invité les participants à valoriser plus efficacement la prochaine célébration du synode et à maintenir vivante la tension pastorale et spirituelle qui a caractérisé l'année sacerdotale qui s'est à peine conclue. Le synode pourrait stimuler une sorte d'alliance spirituelle pour favoriser une présence significative là où l'annonce de l'évangile a commencé, a affirmé le cardinal Sandri. L'avenir de la présence chrétienne si dramatiquement réduite au Moyen-Orient dépendra, selon lui, de façon non négligeable des agences d'aide catholique. Plus tard, Mgr Nicolas Eterovitch, secrétaire général du Synode des évêques, a présenté de façon exhaustive l'instrumentum laboris du Synode. Puis l'archevêque maronite de Chypre, Mgr Youssef Souef, a parlé des défis actuels de des églises au Moyen-Orient. Il a présenté le panorama des conditions actuelles des chrétiens dans la région. La situation politique très difficile dans la zone influence directement la vie de toutes les populations et donc des chrétiens aussi. Selon Mgr Souef, la vocation des chrétiens les invite à ne pas se renfermer sur eux-mêmes, mais à promouvoir la liberté, contribuant ainsi à l'édification d'une société meilleure. En dehors des difficultés avec l'extrémisme islamique, l'archevêque maronite de Chypre a attiré l'attention sur le grand défi de l'immigration des chrétiens et a rappelé que l'appel à la communauté internationale en faveur des populations du Moyen-Orient n'est pas seulement pour la présence chrétienne, mais pour sauvegarder une culture de l'amour qui se manifeste dans la diversité et dans le dialogue. Ces travaux de la ROACO, qui se tiennent jusqu'à vendredi 25 juin, ont pour thème une alliance spirituelle pour les chrétiens au Moyen-Orient. Il rassemble notamment plusieurs représentants de dicastères de la curie romaine et une quarantaine d'œuvres catholiques travaillant au Moyen-Orient.
Radio Vatican, rendez-vous avec l'Afrique. Passons maintenant à notre rubrique et rendons-nous tout de suite à Cara pour la correspondance que voici et dans laquelle Gabriel Calgoré, notre correspondant, nous donne des nouvelles de l'actualité de la vie de l'Église au Togo.
La solennité du Sacré-Cœur a revêtu un cachet tout spécial dans l'association Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie. L'association, en effet, inscrit en lettres d'or les 400 ans de son existence, dont 50 ans pour le taureau. Cet événement, célébré le 11 juin à Lomé, dans la paroisse Cristo Risorto de Edjanawe, a été marqué par une série de manifestations. Près de 3000 dévots venus des 45 paroisses de l'archidiocèse se sont retrouvés dans l'enceinte de la paroisse, prière de pénitence, de réparation des péchés, outrage et sacrilège ont fait l'objet de supplications devant le Seigneur. Après 16 heures de purification, les fidèles ont participé à l'Eucharistie, présidée par le curé de la paroisse, le père Pierre Adiadomé. L'officiant a exhorté chaque chrétien, en particulier chaque dévot du Sacré-Cœur, à revoir leur propre chemin de conversion afin de retrouver tout l'élan nécessaire pour rendre grâce à Dieu. Abordant les 400 ans de l'association, le prédicateur a souligné qu'il y a 50 ans que le Sacré-Cœur de Jésus est devenu l'ombrage et le pâturage des Togolais. En conséquence, a-t-il poursuivi, le Togo entier doit rendre grâce à Dieu pour son amour et sa bienveillance. À la fin de la célébration, le président du conseil diocésain de l'association Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie, Monsieur Janvier Unpatin, a adressé ses remerciements à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, pour son esprit de disponibilité. Il a également remercié les curés et tous les participants. Signalons pour terminer que l'association Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie regroupe environ 10 000 adultes et jeunes dans l'archidiocèse de Lomé. Cara, Gabriel Calbora, Radio Vatican.
En Afrique du Sud, la Conférence des évêques catholiques d'Afrique australe annonce que les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux seront pour la première fois en Afrique du Sud du 27 juin jusqu'au début du mois d'octobre. L'initiative d'accueillir les reliques de la Sainte a été prise par la jeunesse catholique de la paroisse Saint-François d'Assise à Yeovil, banlieue de Johannesburg, profondément inspirée par la Sainte et par sa foi et attirée par son cheminement spirituel. Cette initiative fait partie de nombreuses actions que l'Église catholique sud-africaine dans la région de Johannesburg en particulier a mis sur pied durant la Coupe du monde de football. Les reliques de Sainte Thérèse visiteront 5 provinces et les évêques espèrent qu'elles inspireront les personnes, renforceront leur foi et seront un défi pour tous à suivre sa foi et vivre sa vocation comme Sainte Thérèse l'a fait.
Au Gabon. L'actualité religieuse a été dominée par la profession de 4 religieuses à Libreville où nous attend Jean-Claude Nounamo pour les détails.
Accomplissez fidèlement la mission que vous confie l'Église et que vous remplirez en son nom. Telles sont les dernières paroles prononcées par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mbengone, lors de la profession perpétuelle des sœurs pour le règne de l'espérance Massamba, Marie-Philippe Andémé, Estelle Joël de la Croix à Bon et Estelle Emmanuel Obonan. C'était le samedi 12 juin dernier à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville, en présence d'une trentaine de prêtres et pasteurs de l'Église évangélique du Gabon, de plus d'un millier de religieuses, parents amis et connaissances des 4 consacrés. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville a exhorté les 4 religieuses à laisser la parole de Dieu guider leur vie. Pour Monseigneur Basile Mbengone, la parole nous pousse à créer la communion entre Dieu et les hommes. C'est par elle seule que nous pouvons mieux construire le monde et partant nos différentes congrégations. Elle est bonheur et remède salutaire pour nous et sans elle, notre vie est dans l'impasse. Parce que non manipulable, non exigeante et non remplaçable, il nous revient à cet effet de vivre cette parole dans son intégralité et non d'en soustraire les versets qui nous font mal à cause parfois de nos actes de compromission, a fait remarquer l'archevêque de Libreville et de Nancy. Pour l'amour de Dieu que vous venez encore manifester ce jour, je vous invite de vous déposséder de vous-même et de défendre au plus profond de vous-même de l'amour de l'autre. Vivre votre engagement, c'est aussi vivre Jésus-Christ jusqu'à la croix et de regarder celle-ci comme une source de justification. Dans cette aventure crucifiante, oubliez tout le mal qu'on vous aura fait et acceptez de tout perdre pour rester avec le Christ, a-t-il conclu. Désormais épouse du Christ, elles ont été accueillies par la supérieure générale qui n'a pas manqué de leur rappeler qu'en cet état, elles auront tout en commun avec la communauté. Dans leurs mots de remerciement, elles ont surtout appelé les jeunes du Gabon à s'engager dans la vie religieuse qui est source de grâce, la mission du Christ étant l'affaire de tous. À noter que la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie a été fondée le 9 décembre 1917 et compte en ce moment 28 religieuses avec une moyenne d'âge qui serait de 45 ans. Jean-Claude Nounamo, Libreville, pour Radio Vatican.
Toujours en Afrique du Sud, l'épiscopat de ce pays est en train de multiplier les initiatives à l'occasion de la Coupe du Monde pour assister spirituellement les supporters qui arrivent dans ce pays. Il a été mis en œuvre un site internet spécial. On distribue un livret spécial de prières pour la liturgie à chaque supporter qui en fait la demande. Le manuel inclut aussi une brève histoire de l'Église catholique en Afrique du Sud et une liste des paroisses les plus proches des stades où se disputent les matchs du championnat mondial de foot. Chaque paroisse offre aussi des occasions de rencontres et de prières. La cathédrale du Sacré-Cœur de Pretoria fait partie d'un organisme œcuménique qui a promu une rencontre œcuménique entre supporters des différentes classes sociales, ethnies, langues et nations au Burgerspark, l'un des parcs les plus populaires de la ville de Pretoria. C'est aussi une occasion de dialogue. Nous examinons des problèmes comme les sans-abri, les enfants des rues, la pauvreté, le sida, le trafic d'êtres humains, la criminalité et la drogue, a expliqué le père Victor Falana, responsable de l'initiative œcuménique auprès de la cathédrale.
Soudan maintenant, pour Mgr Taride Taban, évêque émérite de Torite au sud de Soudan, les autorités locales devraient s'atteler maintenant à la tâche urgente de la paix et de la réconciliation, à présent que le Sud-Soudan peut asseoir progressivement ses propres institutions. Mgr Taban invite la population sud-soudanaise à rester unie et à œuvrer ensemble pour la paix en vue du référendum de 2011, par lequel elle sera appelée à décider si le Sud-Soudan deviendra un État indépendant ou non. Mgr Taban dit sa confiance dans l'avenir. Le Soudan ne retombera pas dans la guerre, ni maintenant, ni après le référendum décidant de l'avenir des Sud-Soudanais, affirme-t-il. L'œuvre de paix de l'Église est d'autant plus nécessaire en ce moment où continuent à arriver des nouvelles d'affrontements et de proclamations menaçantes de la part des chefs de factions dissidentes dans la zone. En le recevant récemment, le gouverneur de l'État de l'Équatoria, M. Luis Lobong, a dit de Mgr Paride Taban qu'il restait dans le cœur des populations comme, je cite, « un architecte du développement, un héros de la population de l'Équatoria orientale et du Sud-Soudan tout entier ». Fin de citation.
Voici à présent ce qui a caractérisé la vie de l'Église au Sénégal où nous retrouvons notre correspondant local.
L'abbaye du Cœur Immaculé de Marie de Cœur Moussa a célébré sa fête patronale ce samedi 12 juin. La messe a été présidée par le nonce apostolique Mgr Luis Mariano Montemayor. À l'occasion de cette célébration, le père abbé Ange-Marie Niouki, le frère Élie Diouf et le frère Jean-Marie Rousseau, trois des quatre premiers prêtres ordonnés à l'abbaye par l'imposition des mains du cardinal Yacine Tiandoum, ont célébré leur jubilé d'argent. Dans son homélie, le célébrant a d'abord peint l'historique de la dévotion au cœur immaculé de Marie, insistant sur les apparitions à Fatima en 1917 et la consécration du monde au cœur immaculé de Marie par le pape Pie XII. Il a ensuite donné lecture de la prière de consécration que le pape Benoît XVI a formulée lors de son récent voyage à Fatima. Et le nonce apostolique a expliqué pour terminer « toute la signification du sacerdoce des moines qui se justifie, même sans aucun ministère, avec la célébration de l'Eucharistie. La clôture de l'année sacerdotale a été marquée ce 11 juin dans le diocèse de Kaolack par l'ordination sacerdotale du frère Georges Moïse Diaboun, missionnaire du Sacré-Cœur. La célébration a eu pour cadre la paroisse du Sacré-Cœur de Gandiaï. En cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, ils étaient nombreux, les fidèles du Christ, les paroissiens, les frères du Sacré-Cœur, les missionnaires du Sacré-Cœur et les religieuses à prendre part à cette célébration. À l'homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye, entouré d'une centaine de prêtres concélébrants, a d'abord reconnu que la figure sacerdotale de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, nous a accompagnés tout au long de cette année qui s'achève dans l'action de grâce avec cette ordination sacerdotale. L'évêque a ensuite fait comprendre que pour nous, baptisés et ordonnés à servir le peuple de Dieu, vivre le sacerdoce, c'est nécessairement puiser à la source du cœur de Jésus pour aimer et servir comme lui. Le célébrant a en outre affirmé que c'est l'amour du Christ qui fonde et nourrit le zèle apostolique. C'est dans cette existence pastorale, irriguée par sa relation amicale avec le Christ, qu'il assumera la triple charge de son investiture pour enseigner, sanctifier et gouverner. Il a enfin imploré l'intercession de Saint Barnabé, dont c'était la fête, ainsi que celle de Saint Jean-Marie Vianney, afin qu'ils soutiennent et sanctifient la vie de tous nos prêtres. Clément Arwandino de Dakar pour Radio Vatican.
Les attentats qui ont visé des manifestations de chrétiens à Nairobi autour du projet de nouvelle constitution du Kenya suscitent la condamnation dans les termes les plus forts de la conférence des évêques catholiques qui parle de crimes atroces. Cette violence sur des innocents souligne la conférence épiscopale du Kenya ainsi que les lâches actes de vandalisme irrévérencieux et de profanation à la basilique de la Sainte Famille de Nairobi étaient dirigés contre le sacrement le plus béni de tous les catholiques. De tels actes sont insupportables, disent les évêques dans un communiqué. Les évêques du Kenya disent aussi leurs préoccupations face aux attaques personnelles qui ont été lancées dans les médias et dans le public contre des hommes d'Église, simplement parce qu'ils avaient choisi de s'opposer au projet de constitution et d'exhorter les populations à rejeter un texte qui, souligne-t-il, n'est pas bon pour le pays. Les Kenyans ne doivent pas perdre de vue qu'ils doivent continuer à vivre ensemble comme nation, souligne le texte de la conférence épiscopale kenyane.
Le développement est le nouveau nom de la paix. Magazine d'actualité de l'engagement de l'Église au service de la promotion intégrale de l'homme.
Le thème de notre magazine aujourd'hui, République démocratique du Congo. Le père Joseph Delvordre, assomptionniste, allie pastoral et développement dans sa paroisse de Butembo, Beni. À nos micros, il nous fait part d'un projet concernant le permis à huile à Butembo.
Oui, cette palmeraie continue. Les difficultés sont venues du manque de courant électrique. On avait installé une turbine sur une rivière. Elle n'est pas complètement terminée. Et d'ailleurs, elle n'est pas encore en état de fonctionner. Et donc, fabriquer du savon, surtout, pour l'instant. On pourrait fabriquer peut-être de la margarine aussi. C'est une plantation de 300 hectares qui est à la limite du parc national du Virunga. Et donc, il faudrait bien continuer. Évidemment, ça demanderait maintenant beaucoup de moyens. Mais déjà, cette plantation permet aussi à nos jeunes de notre institut de développement que nous avons près de l'institut de communication sociale, enfin dans le même cadre, de l'ICEAM, Institut supérieur Emmanuel d'Alzon de Boutembeau. Nous avons aussi le développement et la philosophie. Donc il faut permettre aux jeunes aussi, mais en cherchant aussi d'autres débouchés que notre plantation. Les jeunes peuvent trouver aussi, et surtout peut-être en mettant sur Internet leur petit travail d'étudiant, qui est diplômé, et donc qui pourraient trouver des personnes qui pourraient les aider à installer des petites industries de toutes sortes. C'est ce qui est important maintenant pour nos jeunes en Afrique surtout.
C'était donc là notre magazine. Voyons à présent les titres ayant marqué l'actualité politique et sociale en Afrique au cours de ces dernières heures.
Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ou blessées dans un accident de train dans la nuit de lundi à mardi dans le sud-est de la République du Congo sur la ligne Pointe-Noire-Brazzaville, principal axe de communication terrestre du pays. L'accident s'est produit entre les localités de Bilinga et Chitondi. Une source proche du dossier a affirmé que le train aurait été trop chargé tant en termes de passagers que de marchandises. En septembre 1991, sur la même ligne, une collision en Vunguti, près de Dolisie, entre un train de passagers et un train de marchandises avait fait 100 morts et 300 blessés.
Par ailleurs, les autorités du Congo, Congo-Brazzaville toujours, ont dépêché mardi un avion dans la localité de Wesso chercher les corps des 11 victimes de l'accident d'avion survenu samedi dans le nord-ouest du pays à la frontière avec le Cameroun. Un responsable de l'autorité aéronautique camerounaise a assuré mardi matin que les corps des 11 occupants de l'avion avaient été retrouvés, mais les autorités congolaises affirment toujours qu'un corps reste toujours à retrouver. L'avion accidenté, un bimoteur, parti de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et se dirigeant au nord du Congo-Brazzaville, transportait des personnalités étrangères, dont le magna de la mine en Australie.
À propos de la République démocratique du Congo, les fils de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba ont décidé de déposer plainte à Bruxelles, en Belgique, contre 12 Belges qu'ils soupçonnent de complicité dans l'assassinat en 1961 de leur père, le héros de l'indépendance du Congo-Kinshasa, dont on s'apprête à célébrer le cinquantenaire. C'est un père que je cherche, un père que j'aime toujours et je veux savoir pourquoi il a été tué, a expliqué mardi, très ému, Guy Lumumba, le fils cadet du premier chef du gouvernement démocratique élu dans l'ex-Congo belge. Avec son frère François, il est l'un des membres de la famille Lumumba à l'origine de l'action. On vise les assassins en Belgique, ils sont 12, ils sont vivants et nous voulons qu'ils répondent de ces actes ignobles devant la justice, a expliqué Guy Lumumba lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Cette plainte avec constitution de partie civile sera déposée en octobre au pénal à Bruxelles, a précisé l'un des avocats de la famille Lumumba, Christophe Marchand.
Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Jean Ping, a fermement condamné l'attaque lundi contre des soldats de la paix au Darfour, dans l'ouest du Soudan, une attaque qui a fait 3 morts parmi les casques bleus rwandais et un blessé.
Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a annoncé lundi soir la formation du premier gouvernement élu de cette région semi-autonome qui doit tenir en janvier un référendum sur son indépendance. Selon la télévision du Sud-Soudan, le président sudiste a annoncé par décret la composition d'un gouvernement de 32 ministres, incluant Pagan Amoum, secrétaire général du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLM, qui devient ministre de la paix et de la mise en œuvre de l'accord de paix global.
En Égypte, 3 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées tôt mardi lorsqu'une voiture est tombée d'un pont du sud du Caire, la capitale, pour s'écraser sur un souk, provoquant un incendie de grande ampleur, selon les médias égyptiens.
14 Nigériens ont été tués et une trentaine blessés dans un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord du Nigeria, frontalier du Niger, lorsque le camion qui les transportait s'est renversé après avoir été violemment percuté par un gros porteur près de Koré, localité proche de Sokoto, capitale de l'État nigérien du même nom. Les victimes sont des ressortissants de la région de Tawa dans l'ouest nigérien qui rentraient au pays après avoir fui la crise alimentaire pour travailler au Nigeria.
Le président du Sénégal, Maître Abdoulaye Ouad, ouvrant lundi à Dakar un forum consacré à la lutte contre la corruption, a insisté sur l'idée que l'Afrique n'était pas corrompue, même s'il y avait des corrompus en Afrique.
Le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit mardi vraiment heureux du succès et de l'esprit du Mondial 2010 de football qui transcende les races dans un pays toujours divisé 16 ans après la fin de l'apartheid. Même si l'équipe nationale perdait contre la France mardi à Bloemfontein et sortait de la compétition, le président sud-africain a appelé ses compatriotes à continuer à s'investir jusqu'à la fin du mondial le 11 juillet.
Du psaume 27. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours.
Par ta résurrection, sois pour nous aujourd'hui la lumière de vie.
Chers amis, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Ton peuple sur la montagne. Pour nous aujourd'hui la parole de vie.